Bienvenue dans Plus proche de vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Julie Kim Baudry. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Choc FM 105.1 dans le cadre de notre projet Plus proche de vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va Julie Kim aujourd'hui?
Ça va super bien, merci de m'avoir invitée.
Ben écoute, moi je suis très très contente de t'avoir avec nous parce qu'on va pouvoir en apprendre plus sur toi, en apprendre un peu plus aussi sur ton parcours de vie. Alors avant toute chose, Julie Kim, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui ne te connaissent peut-être pas encore et nous rappeler également d'où tu viens, où tu es née?
Ben, je m'appelle Julie Kim Baudry. Je viens d'une petite ville à l'extérieur de Montréal qui s'appelle Beauharnois. Et c'est là où est-ce que je suis née. Puis maintenant, j'habite dans la grande région Toronto depuis 23 ans que je suis dans la région ici. Et je suis chanteuse, comédienne, auteur, compositrice, interprète. Je fais plein de choses.
Beaucoup de casquettes, Julie Kim.
Oui.
Alors justement, tu disais que tu venais de Beauharnois au Québec. Est-ce que tu te rappelles de bons souvenirs d'enfance que tu as pu passer là-bas? Alors ça peut être des souvenirs par rapport à l'école, ça peut être des souvenirs par rapport à tes premiers amours avec la musique, ça peut être des souvenirs XY ou même de mauvais souvenirs qui, avec le recul, sont devenus des trucs assez rigolos, des petites anecdotes. Mais est-ce que tu as des petites anecdotes, des petits souvenirs d'enfance à partager avec nous?
Oui, en fait, c'est drôle parce que j'ai commencé vraiment par des cours de musique. J'avais 3 ans quand j'ai commencé avec des cours de piano classique. Mais c'était un peu contre moi. Je ne voulais pas vraiment faire ça. Puis ma mère était là, non, tu dois faire des cours de piano. Puis là, je faisais des cours de piano. Puis c'était correct. Au début, je m'amusais, mais par la suite, c'est devenu un peu plus intense. Mais des fois, je me dis, ah, comment ça j'ai bifurqué vraiment vers les arts? Est-ce que c'était grâce à mes cours de piano ou à autre chose? Mais quand je reculais là, dans ma tête, en sixième année, on avait fait on graduait l'école élémentaire pour s'en aller à l'école secondaire. Puis on avait décidé de faire un grand spectacle de fin d'année pour l'école. Ça, c'est les élèves qui avaient décidé de faire ça. Puis il devait nommer quelqu'un qui était en charge de monter ce spectacle-là, de faire la chorégraphie de ce spectacle-là. Puis moi, c'est moi qui ai été votée pour faire ça, pour organiser ça. Puis quand je pense à ça, je dis, ah, c'est vrai, c'est moi qui avais voté pour faire ça. Puis on avait chanté une chanson de... On avait fait du Madonna. On avait tout fait des chorégraphies puis tout ça sur une chanson de Madonna. Puis on avait fait... Toute l'école avait chanté, bien, toutes les sixièmes années avaient chanté une chanson de Nathalie Simard et René Simard, qui étaient comme les enfants chouchous au Québec à cette époque-là. Puis on avait chanté la chanson « Tourne la page », puis toute l'école ensemble, là, c'était vraiment un bon spectacle. Puis quand j'étais à l'école secondaire, j'étais reconnue comme la chanteuse là, de mon école secondaire. Je faisais les spectacles de talent, puis les galas méritas, je chantais à ces événements-là. Puis mon école secondaire avait aussi une spécialité en théâtre. Donc, quand on était au secondaire 5, on pouvait prendre l'option théâtre. Puis moi, j'avais fait ça. On a fait un petit peu de tournée avec cette pièce de théâtre-là. Donc ça, c'était le fun. Puis ça, c'est mes beaux souvenirs comme artistiques par rapport à ma ville natale. Puis c'est drôle parce que, une petite parenthèse à part, mais c'est drôle parce que je parlais justement ça hier, que j'ai toujours adoré la danse. Je suis pas danseuse, j'adore danser, mais je suis pas une danseuse dans la vie. Mais ça, j'avoue que c'est comme un de mes seuls regrets là, que j'ai pas vraiment suivi des vrais cours de danse pour m'épanouir au niveau de la danse. Mais quand j'avais 15 ans à peu près, j'ai auditionné pour rentrer dans une école secondaire en danse. Il y avait un programme de danse, mais c'était dans les Laurentides, c'était loin de chez moi. Mais j'avais auditionné quand même, puis on voulait essayer de trouver une façon de peut-être que je pourrais vivre chez quelqu'un pendant l'année scolaire pour aller dans cette école-là. Puis j'avais été acceptée. J'avais eu mon horaire littéraire, j'avais tout eu. Puis finalement, c'est ça, moi, mes parents étaient divorcés, j'étais seule avec ma mère. Ma mère avait une entreprise, puis ça n'a jamais donné, on n'a comme pas suivi avec ça. J'avais été pris on m'avait accepté dans le programme de danse, mais finalement, je ne suis jamais allée. Donc, c'est probablement à cause de ça que je ne suis pas danseuse aujourd'hui. Mais finalement, j'ai fait l'option théâtre en secondaire 5 qui m'a emmenée au niveau théâtre. Puis c'est ça, vraiment, les débuts. Ah oui! Il y avait une fête des citoyens à Beauharnois qui était toujours à peu près 10 jours, qui serait comme cette fin de semaine, qui serait pendant la fête du travail. Puis c'était la fête des citoyens, organisait des spectacles. Céline Dion est déjà venue chanter dans ma petite ville au début de sa carrière. Puis il y avait des... ma mère, elle avait un restaurant dans la ville, puis souvent, il y a quelques années, elle fournissait la nourriture. C'est elle qui faisait le snack bar pour la fête des citoyens. Puis, il y avait toujours des bands qui venaient jouer, qui étaient des groupes R&B, soul, puis comme ils jouaient des années 70 là, avec les snaps. Puis moi, je tripais sur ce genre de musique-là, puis j'étais toujours en avant de la scène. Puis à chaque année, on me prenait sur scène. Puis tu sais, comme quand ils amènent des enfants sur la scène, là, j'avais comme, je ne me souviens même plus quel âge je pouvais avoir. J'avais peut-être 9 ans. Puis là, on me montait sur la scène. Puis ma mère, elle disait tout le temps, Julie Kim, puis elle me cherchait, puis les gens étaient là. Et là, c'est la scène. Puis moi, je chantais avec le groupe, puis ils étaient là, badou, moi, j'étais là, je chantais avec eux, puis je sais pas pourquoi, mais moi, j'étais pris, puis après ça, ils m'emmenaient, j'étais avec eux dans les loges, en arrière-scène, puis j'étais avec le groupe, puis j'étais tout petite, puis j'étais déjà entourée, là, ils étaient là, wow, OK, toi, t'es quelqu'un, comme ils avaient déjà vu ma personnalité, déjà, là, quand j'étais en avant de la scène, puis je groovais sur ma musique. Ah, c'est drôle, je raconte pas souvent ça, là, je pense, mais ça, c'était vraiment le fun. J'ai des beaux souvenirs de ça, puis j'avais leur poster, leur affiche dans ma chambre, ils avaient tout signé mon affiche. Ça, c'était quelque chose, c'était le fun.
Alors, justement, t'as commencé, tu disais, le piano super jeune, Julie Kim, t'as commencé à 3 ans, tu disais, du coup, je me demande, à quoi tu te rêvais quand t'étais petite? Est-ce que, du coup, dans ta tête, c'était déjà un petit peu former cette idée de j'aimerais bien faire quelque chose d'artistique, je me vois chanteuse, je me vois sur scène à côté de tous ces bands incroyables auxquels tu as pu participer avec cette histoire de fête des citoyens par exemple, ou alors c'était pas du tout dans ta tête et que tu étais plus en mode comme à peu près toutes les petites filles à se rêver maîtresse ou hôtesse de l'air, vétérinaire, c'est des métiers qui reviennent assez souvent quand on est petite. Toi, c'était quoi ton rêve quand tu étais gamine?
Non, je voulais être chanteuse. Puis c'était dans mon cœur, c'est parce que mon père est saxophoniste, puis lui, il jouait. Puis j'allais le voir jouer, puis il jouait dans des... Il n'a jamais fait une grande carrière. Ça a toujours été un deuxième emploi pour lui. Mais il jouait les fins de semaine, il faisait partie d'un... Il jouait dans des groupes. Mais c'est sûr que c'était la musique. Puis je me voyais chanteuse, mais à quelque part, en dedans de moi, je ne le croyais pas. Tu sais, je voyais, puis je regardais la télévision, puis je voyais les gens qui étaient dans une boîte. Tu sais, puis on entend le Star System des États-Unis, Hollywood, tout ça. J'étais autant attirée, j'ai plus baigné dans la musique, fait que je pense que c'était plus plausible pour moi, je me voyais plus réalisable le côté musical que télévision. Parce que je suis là, ben voyons, à Beauharnois, on ne voyait jamais de vedettes. C'était impossible, puis comme ces gens-là, on les voyait sur les tapis rouges, aux Academy Awards, on les voyait dans la télévision, c'était impossible que moi, dans ma vie, je côtoie ces gens-là. Mon cœur voulait ça, puis dans ma tête, on dirait que ça faisait pas de sens. C'était pratiquement impossible que...
Il y avait l'envie et la raison, en fait.
Oui, je pense que ça m'a arrêté longtemps, comme dans mon subconscient. Tu sais, des fois, quand tu le crois pas, comme tu sais que t'as un talent, tout ce que je faisais, les cours que je prenais, tout le monde était là, ah, il disait à ma mère, ah, ta fille est vraiment talentueuse, da-da-da-da-da. Ben oui, mais dis ça, mais comme il m'arrive rien pareil, je viens de Beauharnois, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Comme pas que je m'assoyais sur mon sort, mais comme un petit peu, je sais pas, ouais, ça c'était...
Comme si c'était pas possible pour quelqu'un comme toi, entre guillemets, parce que tu venais trop d'un petit bled, entre guillemets, un petit village, un peu loin. Pourtant, comme tu dis, genre dans cette ville, il y avait quand même des choses qui s'y passaient, il y avait quand même des artistes qui venaient, Céline Dion, quand même, même si c'était le début de sa carrière, maintenant avec le recul, on se dit, waouh, elle est quand même passée à cette fête. Donc, c'est pas comme si t'étais vraiment dans un village très reculé où il se passait rien. Il y avait avait quand même un tout petit peu d'artistique qui venait à toi par paillette, tu sais, pour t'en mettre un petit peu dans les yeux.
Ouais, puis j'étais quand même pas très loin de Montréal aussi, qui est la grande ville dans le fond, puis là, les artistes se promènent à Montréal. <C'est> quand... Mais ouais, c'est peut-être moi, puis tu sais, de voir mon père aussi, qui a toujours adoré jouer du saxophone, mais qui n'a jamais vraiment fait de carrière là-dedans. Là, c'était pourquoi? Tu sais, si t'aimais vraiment ça, pourquoi pour toi ça marche pas? Pourquoi ça... Est-ce que tu voulais vraiment ça? Oui, mais là, tu sais, il faut vivre aussi, tu vas avoir une maison, tu vas avoir... Comme c'était beaucoup son côté de raison familiale aussi. Puis ouais, c'est ça, c'est... Mais là, ça a changé quand j'allais au cégep, par exemple. Ça l'a... Disons que ça l'a évolué. Oh,
mais là, t'étais déjà un peu plus grande. Mais quand t'étais vraiment petit, tu te rêvais quand même chanteuse, quoi qu'il arrive. Même si tu sentais que peut-être ça allait être un peu plus compliqué parce que tu venais d'un petit village, t'avais quand même ce truc en toi, tu t'es jamais vue maîtresse d'école, par exemple.
Non, pas du tout. C'était très, très, très artistique. Puis même qu'il y avait une fille dans ma famille qui était plus âgée que moi. Puis elle était reconnue comme la chanteuse de la famille. Quand j'étais toute petite, là, j'avais comme 8, 9 ans, 10 ans. Puis je me souviens, c'est tellement ridicule, mais je me souviens que je pleurais. Je l'entendais chanter, puis je pleurais. J'étais triste parce que moi, on ne me demandait pas de chanter. Mais il n'y a pas personne qui savait.
T'étais déçue que t'en mettes pas en avant parce que tu savais que tu chantais bien, que tu aimais ça et que ce n'était pas toi la chanteuse de la famille.
Oui, mais personne ne savait. Là, j'avais même pas chanté encore, moi, devant les gens. Là. Comme avec le recul aujourd'hui, je trouve ça très rigolo parce que je me dis, mais voyons, comme j'avais jamais fait de spectacle, jamais, j'avais juste joué du piano. Puis j'avais jamais vraiment dit, je veux chanter. Tu sais, dans la vie ou quelque chose. Mais la première fois que j'ai chanté devant un public, c'était à. J'avais 10 ans, puis c'était pour les 40 ans, le 40e anniversaire de naissance de ma mère. Il avait fait dans son restaurant, il avait fait une grande fête, il avait invité plein de gens. Puis j'avais chanté avec mon cousin une chanson de René Simard et Nathalie Simard encore. Ah, ben oui, parce que ça, j'avais 10 ans, donc j'avais pas fait le spectacle encore à mon école primaire. En 6e année, j'avais 12 ans. Donc ça veut dire que c'était avant ça, ouais. Puis ça, c'était vraiment la première fois que j'ai chanté devant des gens. Le monde était là, oui! Excuse-moi, je viens de penser à quelque chose d'autre ici. Ma mère, son restaurant, elle avait un restaurant de steak et fruits de mer. Puis, elle organisait des soupers chantants. On connaissait un chanteur d'opéra qui chantait pour l'Opéra de Montréal. Il y avait une pianiste classique, puis il venait faire des airs d'opéra. Puis les gens, ils mangeaient pendant le repas. Puis,
dîner-spectacle.
Dîner-spectacle, c'est ça, dîner-spectacle. Puis moi, j'étais dans la salle, puis j'étais vraiment passionnée. Je les écoutais comme répéter dans la journée. Puis j'étais assise en arrière, puis je pense qu'on peut le voir juste par mon énergie, mais je bougeais beaucoup quand j'étais petite. Puis pendant ce spectacle-là, par contre, je ne bougeais pas. Comme je restais assise, je courais pas partout dans le restaurant, mais j'étais comme ça. Puis eux, c'était très drôle parce que j'étais assise comme un peu sur mes genoux, sur la chaise, comme à l'arrière de la salle, puis je faisais tout le temps des gestes comme si c'était moi qui étais en train de chanter, puis je faisais rire le chanteur. Puis il disait à ma mère, il dit, « Hey, si ta fille finit pas par chanter, je sais pas ce qu'elle va faire. » Comme c'est impossible qu'elle finisse pas par chanter, donc, parce que j'aimais vraiment ça, même si je suis pas devenue nécessairement chanteuse classique, mais j'ai toujours adoré la musique, puis voir des spectacles, puis voir ça, donc. Ouais.
Alors, tu parlais justement de Céline Dion tout à l'heure. On va passer la première chanson de ta sélection musicale, Julie Kim. C'est une chanson de Céline Dion, justement. Elle s'appelle « L'amour existe encore ». Je pense que les auditeurs de Choc FM 105.1 la connaissent. Mais pourquoi, toi, elle te fait battre ton cœur spécialement, cette chanson?
Je trouve qu'elle est toujours... elle est vraiment intemporelle, cette chanson-là. C'est vraiment une chanson que je la chante encore aujourd'hui. Je l'ai chantée il y a peut-être 20 ans, cette chanson-là. Puis les paroles... C'est encore de ce temps. Donc, c'est une chanson qu'on peut toujours chanter. C'est une chanson qui me ground, qui m'enracine. Comme quand je la chante, j'ai l'impression que je suis dans un autre monde.
Il n'y a plus rien autour.
Ouais, il n'y a plus rien autour. Ouais, juste les accords, la musique, la mélodie, tout de cette chanson-là. Ouais, j'aime vraiment cette chanson.
Et bien, on va tout de suite écouter un court extrait de cette chanson de Céline Dion, « L'amour existe encore » sur les ondes de chaque FM 105.1.
Alors je n'ai plus de doute, l'amour existe encore. ton port, la solitude que je redoute, qui me guette au bout de ma route. Je la mettrai dehors pour t'aimer une fois pour toutes, pour t'aimer coûte que coûte. Alors je n'ai plus de doute, l'amour existe encore, l'amour existe encore. On n'était pas du même bord, mais au bout du compte, on s'en raison ou tort, le monde est mené par des fous. Mon amour, il n'en tient qu'à nous. Nous aimer plus fort, au-delà de la violence, au-delà de la démence.
Extrait de cette chanson de Céline Dion, L'amour existe encore. J'ai eu des frissons pendant la chanson. Je la connais cette chanson, mais je me rappelais pas les nuances de sa voix et les trucs. Oh là là, je sais pas pourquoi d'un coup ça m'est monté. J'ai même eu un peu l'alarme, tu vois, le petit oh, la petite émotion. Je me suis dit, ah non, t'es filmée, Nat, ne fais pas ça. Donc ouais, mais je comprends pourquoi tu disais que quand toi tu l'interprètes sur scène, t'es habité par la chanson et que tu sens qu'il y a plus personne autour, parce que il y a ce truc, les paroles, la mélodie et puis les timbres de sa voix, quand même tu la réinterprètes à ta sauce. Mais t'es habité par ce genre de chanson, t'es obligé en fait.
Ah oui, oh, j'aime cette chanson.
Alors on va continuer un petit peu le fil de ta vie. Donc tu disais que toi la musique c'est quelque chose que tu sentais déjà quand t'étais petite, t'adorais ça et tout, mais c'était plus le piano. À quel moment tu t'es rendu compte que ta voix c'était aussi un instrument, que ta voix c'était quelque chose? Parce que comme je le dis toujours quand je fais des interviews avec des artistes qui ont de la musique, une voix on en a tous une, on parle tous les jours avec sa voix, mais on se rend pas forcément compte de la qualité de sa voix, parce que d'une, quand on s'entend parler, on n'a pas la même voix que quand on parle pour de vrai avec notre arrière interne, on s'entend pas de la même façon. Donc on a toujours une image un peu biaisée, un son un peu biaisé de sa voix, on s'entend pas vraiment. Et puis on a surtout l'habitude, la voix que t'as, tu la traînes depuis tout le temps, quand bien même elle évolue quand t'es une petite fille, une adolescente et une femme, ta voix devient un peu plus étoffée, mais on se rend pas compte que c'est un petit diamant, une petite pépite. Toi, qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que, est-ce que c'est les autres autour de toi, ou c'est toi à un moment donné, t'as essayé des chansons et ça passait, et tu dis, ouais, mais je fais comme la fille à la radio.
Non, mais je ne m'arrête pas vraiment à penser à ça, parce que j'essaie de voir vraiment qu'est-ce que c'est ça qui a fait pivoter, parce que oui, j'ai chanté à la fête de ma mère, je pense que ça, c'est... Puis là, ils ont fait « Ah, oh, wow! » C'est elle a du talent, parce que les gens étaient toujours fascinés par ma présence quand
ton
je chantais.
Charisme.
Ouais. Ils étaient là « Ah, oh, elle a vraiment quelque chose! » Puis j'essaie de voir, parce que j'ai chanté en sixième année aussi. Après ça, je pense que j'auditionnais pour les spectacles de talent à mon école secondaire. Puis là, à un moment donné, ils étaient là « Ah, oh, j'ai dit qu'elle m'a pas besoin d'auditionner, on le sait qu'elle est bonne, on le sait qu'elle est capable de chanter. » Puis, ouais, j'ai chanté à mon spectacle de talent la première année que j'ai chanté, j'ai eu un standing ovation au secondaire. Puis, je me rappelle de ce feeling-là, que c'était la première fois que ça m'arrivait. Là, jamais j'ai eu... C'est peut-être ça, en fait, qui a vraiment cliqué à quelque part, parce que ça a comme découlé de plein de choses, parce que c'est ça, c'est l'année d'après qu'elle dit, oh, Ah, ben là, je dis, Kim, on n'a pas besoin. On le sait, là, je chante une chanson, là, mais on le sait que tu vas faire partie du spectacle parce que comme, c'est sûr que tu vas chanter. Puis ensuite, en secondaire 5, dans l'atelier théâtre, il y avait ajouté des chansons dans la pièce de théâtre pour que moi, je les chante dans le spectacle. Puis je recevais à ce moment-là des fans, mais. Parce que l'atelier théâtre, il y avait les écoles primaires autour qui venaient à notre école pour venir voir la pièce. Puis ensuite, ils disaient aux élèves, quand ils retournaient à l'école, si vous voulez écrire des... Parce que là, pour les jeunes de sixième année, cinquième année, t'es une big star, là, quand t'es en...
C'était toi, la vedette, en fait.
C'est comme, oh, on est allé voir une pièce de théâtre! Puis ils demandaient aux élèves si vous voulez écrire des lettres aux acteurs, aux comédiens qui étaient dans la pièce. Ils ont tous écrit des lettres, puis là, il y en a qui étaient directement personnalisés à différentes personnes, puis j'avais reçu une grosse enveloppe, plein de fan mail, de gens qui, parce que je chantais une chanson, puis ça disait « J'aime le chocolat ». Puis, c'était un blues, puis c'est comme « J'aime le chocolat, ça fond dans la bouche ». En tout cas, puis les gens, ils m'avaient dessiné, puis ils disaient « J'aime le chocolat, moi aussi j'aime ça », puis il y avait une palette de chocolat sur l'image. Il me dessinait. Il était là, j'ai beaucoup aimé ta chanson sur le chocolat. Je pense que c'est ça qui a fait au niveau vocal, vraiment. Juste le fait vraiment que les groupes m'emmenaient sur scène, puis c'était pour chanter. Là, parce que moi, je ne sais même pas ce que je faisais dans la salle. Là, je ne me souviens pas du tout. Mais à penser à comment j'étais, ma personnalité quand j'étais petite et que je n'arrêtais pas de 2 secondes, j'étais toujours à 300%. Puis j'étais probablement comme ça, puis je chantais les chansons. Puis si c'était des années 70, du côté de mon père, je les connaissais probablement déjà, ces chansons-là qu'il jouait, puis ou du Michael Jackson, des Jackson 5, puis tout ça. Puis moi, je devais les chanter parce qu'ils m'amenaient pour chanter avec eux sur scène. Et fait que c'est ça, mais je pense que c'est la réception des gens aussi, là, comme quand tu vois 350 personnes quand tu as 15 ans qui se lèvent puis qui font un standing ovation, tu n'as jamais eu ça de ta vie. Parce que
c'est impressionnant quand même.
Oui, comme j'ai. Wow,
parce que en fait, je chante comme je fais d'habitude, mais là, il y a plein de monde qui sont en train de m'applaudir. Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, je me souviens juste que c'était un grand bonheur extrême. C'était vraiment, je ne le croyais pas. Je disais, ben voyons, c'est juste moi. Je viens de boire, moi, voyons. Comme tu sais, je me minimisais aussi, là. Je disais, ben voyons, ça doit être parce que, je sais pas, je trouvais des excuses pour trouver que ça doit pas être si grand que ça ou comme... Je volais. Cette soirée-là, je pense que j'ai vraiment de la difficulté à m'endormir parce que je reculais le moment. Je voulais le revivre tout le temps. Et on dirait que je voulais toujours revivre ce moment-là.
Un pur shoot d'adrénaline, en fait.
Ouais, ouais.
Et du coup, tu te dis, bon, bah écoute, j'ai apparemment quelque chose pour la musique. Je sais faire du piano. Apparemment, ma voix, elle sonne plutôt pas mal. Du coup, tu décides d'aller poursuivre des études de musique au cégep à Drummondville, il me semble. Et puis après, à l'Université de Montréal. Dans quel état d'esprit tu commences ces études? Est-ce que c'est justement pour faire chanteuse ou tu dis, bon, bah, si ça marche pas, au pire, je pourrais toujours enseigner la musique? Qu'est-ce que c'était à ce moment-là, ton état d'esprit? Est-ce que c'était vraiment, j'y vais, je fonce et comme ça, bah, je peux travailler déjà un peu sur ma carrière, en fait?
Je faisais du théâtre et de la musique, les deux, mais j'avais fait de la musique avait été beaucoup plus présente dans ma vie. Donc, quand je vais généraliser, mais c'est pas vrai. Comme beaucoup de gens dans mon école secondaire, il y a un cégep qui était très tout près de ma ville. De Boisnois. À Valleyfield, il y a un cégep. Je pense que 80 % des élèves, là, c'est pas le vrai chiffre, là, mais vont en sciences humaines, en sciences, quelque chose, au cégep à Valleyfield. Moi, je disais, ben voyons, mais je savais même pas que ça existait, un programme en musique ou en théâtre ou quoi que ce soit. Comme je savais pas que ça existait. Là, quand ils commencent à te demander en secondaire 4, OK, l'année prochaine, tu dois appliquer et tout ça, puis j'avais pas pensé qu'est-ce que je pouvais faire. Puis là, on rencontre l'orienteur, puis il dit, genre, j'aimerais vraiment ça. M'en aller en faire du théâtre, de la musique, mais ça n'existe pas vraiment, s'en aller là-dedans. Il fait, ben oui. Puis là, sachant que je chantais déjà, lui, il ne m'a même pas proposé des écoles en théâtre du tout. Il me dit, cégep de Drummondville, puis il m'a donné un pamphlet du cégep de Drummondville. Il y a un département de musique, tu devrais appliquer au cégep en musique. Ah, oh, ça existe. Tout ce que tu entends du cégep, l'université, c'est les gens qui vont faire des métiers. Moi, je vois les musiciens.
Métier, j'aime bien le terme métier.
Non, mais tu sais,
Un
pas
métier
quelque chose
plus classique, oui, j'entends.
Ouais, comme moi, je vois les musiciens, je les vois à la télévision. Là, ça prend pas, là. Je ne vais pas aller à l'école de la télévision. Dans ma tête, ça n'existait pas. Je pensais pas que ça arrivait, là, du tout. Je me dis, oui, c'est Cégep à Drummondville. Ah, oh, ça existe. Oui, OK. Puis finalement, j'avais pris des cours de chant pour me préparer à l'audition. Mais là, ils te font chanter des chansons. Ils m'ont fait chanter une chanson classique. Et je dis, moi, j'avais aucunement une voix classique. Puis, mais ma prof, elle disait, écoute, t'as une chanson pas nécessairement classique, classique, mais qui est une chanson comme pas opéra, mais qui est un classique, qui est une chanson du Gershwin. Puis elle dit, essaye de chante ça, là, ils vont la connaître, puis tu sais, ça va être bon. J'ai dit, OK. Parce qu'à ce moment-là, au secondaire, ma mère, quand elle a vu l'attention que j'avais par rapport à mon chant, j'ai commencé à suivre des cours de chant en privé, qui était comme OK. Puis des cours de théâtre aussi, je suivais des cours de théâtre en privé aussi. Mais bref, pour le cégep, là, j'ai auditionné, puis j'ai été pris. Je suis rentrée en musique au cégep, qui était, je voulais faire de la musique pop, pas classique. Mais à ce moment-là, j'étais obligée de faire 2 ans de musique classique pour faire la troisième année pop. C'était comme un diplôme d'études collégiales, mais professionnelles. Quand c'est un 3 ans au cégep, le 2 ans, ça veut dire que là, donc, tu dois aller à l'université. Mais quand c'était 3 ans, c'est comme si c'était, là, t'étais prête pour le milieu du travail et tout ça. Puis dans le fond, la troisième année était plus jazz que pop. Mais c'est ça, fait que j'ai fait comme 2 ans de chant classique. Puis j'ai participé à Cégep en spectacle. Puis là, j'étais vraiment impressionnée du fait que pratiquement aucun de mes cours était des matières. J'avais des cours de chorale, des cours de combo, des cours de guitare-voix, de cantilène, des cours. Mon cours privé de chant. Ensuite, j'avais un instrument secondaire. Puis là, j'avais aussi comme français, philosophie, éducation physique. Puis comme 4 cours obligatoires que tu dois faire pendant tes 3 ans. Mais là, j'ai regardé mon horaire, j'étais comme, wow, c'est le paradis. Je vis que tard. Que je pensais que ça n'existait pas du tout. Puis c'est ça. Puis là, ça m'a vraiment ouvert. Puis là, t'es entouré de gens artistiques. Comme c'est sûr là, que je sortais de la norme dans ma petite ville de Beauharnois, puis que j'étais une des seules. Là, on était quelques-uns, parce qu'il y a un gars de Beauharnois qui est venu à Cégep à Drummondville avec moi aussi. Mais là, tu te retrouves avec
Que des
ton
gens comme
monde.
toi, que des gens passionnés de la musique comme toi, en fait.
Passionné de la musique. Puis au Cégep à Drummondville, il y avait aussi un département de danse. Donc, c'était très fort en danse, très fort en musique. Mais là, quand tu rentres dans un département, parce que tout le monde chante, comme tout le monde fait de la musique, mais là, tu n'es pas nécessairement en
Le
haut,
top,
là.
ouais.
Donc ça, c'est un... Là, tu te remets un petit peu neutre. Je suis pas... En tout cas, avec du recul, je pense aucunement... Je suis pas arrivée au cégep en disant « Allô, moi, je chante. » Parce qu'il y avait des jeunes chanteuses qui... Quand je suis rentrée en septembre, il y avait une fille qui était là à partir du mois de janvier. Elle avait commencé à la session d'hiver. Puis elle avait déjà fait des concours très connus au Québec. Là, c'était comme la chanteuse du département de musique, là. Comme là, c'est... Là, je suis rentrée, je suis comme... des concours. Là, il y avait un gars qui était dans mon cours, que lui jouait avec Kevin Parent. Puis j'étais là, wow! Là, moi, j'étais starstruck parce que j'ai à l'école. Puis il y avait déjà des gens. Puis mes enseignants, comme j'ai eu François Bourassa, qui était un de mes enseignants, pianiste jazz, qui était le fils de Robert Bourassa, qui était un des premiers ministres du Québec à un moment donné. Mais là, j'étais vraiment entourée avec les enseignants, c'est des
Des vrais
personnes importantes.
professionnels de la musique, quoi.
Ouais, comme moi, j'étais aux anges. Là. Je me promenais dans le corridor, j'étais starstruck. J'étais. J'avais des étoiles. Donc, j'ai adoré mes années au cégep. Surtout mes 2 premières années au cégep, c'était. Oh, puis on a fait. Oh, j'avais un cours d'opérette aussi. Donc, on faisait des opérettes 2 par année. Donc, on a fait Carmen de Bizet. Ah, ça, c'était vraiment des belles expériences parce que là, ouais, ça, c'était. Ouais, puis juste de faire cégep en spectacle. Là, puis j'avais un cours de composition de chansons. J'aurais pensé faire un cours de composition de chansons. Puis, puis mon j'avais un cours d'arrangement, puis mon prof de ce cours-là enseignait aussi à l'Université de Montréal, puis lui, c'était l'arrangeur de Ginette Renault. Donc, puis lui, il nous disait, ah oh, oui, là, t'entendais des histoires, tu sais, de certains artistes, puis comment que ça se passait dans le milieu. Donc, ça, j'aimais beaucoup. Puis, c'est ça, un moment donné, oh, je vais faire écouter une chanson que Ginette, elle chante, puis ça, c'est une chanson là, que juste Ginette Renault qui la chante bien. Puis là, moi, je suis là, ah oh, oui, OK. Puis là, il nous a fait écouter une chanson de Ginette Renault avec Michel Legrand qui s'intitule « Je suis là ». Puis moi, j'ai pris ça comme un petit défi. Puis je me suis dit « Ah, je veux chanter cette chanson-là ». Puis je m'étais inscrite à ce jeu par spectacle en interprétant cette chanson-là. Puis ça, c'était une super expérience aussi. Ouais.
Ben justement, tu me lances une super perche parce que cette chanson, elle fait partie de ta sélection musicale, Julie Kim. Alors, on va l'écouter tout de suite, justement. « Moi, je suis là » de Michel Legrand.
T'es vu revenir, partir et revenir, emporter tes bagages, ramener tes bagages et refaire tes bagages au moins 5 ou 6 fois. Tu as claqué la porte et sonné à la porte, t'es ouvert la porte et le lendemain tu as repris la porte en pleurant comme une enfant au moins 10 ou 20 fois. Beaucoup de pluie, un peu de soleil, 3 jours de pluie, 1 heure de soleil, c'est notre vie. C'est toujours pareil entre l'enfer et le paradis. Tu changes tous les jours d'un jour à l'autre jour, tu fais l'aller-retour de l'amour à l'amour sans trêve. Tu dis toujours je m'en vais chez ma mère, et quand tu es chez ta mère, ta pauvre mère, tu en repars fâché avec ta mère et tu ne veux plus voir ta mère. Alors écoute-moi bien, tu pars ou tu reviens, mais si tu reviens, alors tu sais que moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, tu le sais, c'est pourquoi tu te crois à l'abri d'une de mes aventures. Je suis là, je suis là, je suis là, alors profite du temps que ça dure. Tu as pris le bateau et l'avion et le bateau, et même mon auto, comment prend le métro pour t'en aller plus loin de moi. Tu as vu l'Amérique, adorer l'Amérique, détester l'Amérique, et malgré cela, tu as repris l'avion pour l'Amérique en disant viens, je t'attends si tu m'aimes vraiment. Si tu t'en vas, pour que je te suive, t'en reste là. Et quoi qu'il arrive, ça nous fera des économies dans l'enfer de notre paradis. Combien toi tu t'en fous, tu pars à tous les bouts, tu es allé partout, de chez nous, à genoux, chez nous. Heureusement, je garde la maison, quand tu quittes la maison, ma pauvre maison. Matin et soir, j'estique la maison et j'en ai marre de la maison. Alors, écoute-moi bien. Alors, écoute-moi bien. J'accepte tes bagages, je boucle mes bagages, j'emporte mes bagages. Et je prends la porte, et j'ouvre la porte, et je m'en vais voir si j'aime l'Amérique. Écris-moi, 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 ouh, crée-moi. Je suis là, je suis là, je suis là, et tu me reverras.
Voilà, c'était la chanson « Moi, je suis là » de Michel Legrand. Alors, je comprends le challenge parce que c'est quand même au niveau de la diction. On en parlait un petit peu toutes les deux hors antenne. Oh, faut pas avoir la langue molle hein, ce jour-là parce que sinon, t'en places pas une. C'est super dur.
Non, 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 c'est ça. Puis quand je parle, les paroles, là, je peux pas arrêter.
Oui, parce qu'elle elle dure pas très longtemps, cette chanson. C'est genre 2 minutes 26 à peu près. Donc, c'est assez court pour une chanson. Mais il y a pas de... Ça s'arrête pas, en fait. La rengaine, elle s'arrête jamais. Faut avoir un sacré rythme. Mais il faut avoir du souffle.
Oui, mais le souffle ça se fait quand même bien. C'est vraiment au niveau de la diction et au niveau des paroles. Puis, elle était vraiment difficile à faire, mais c'était vraiment un coup de cœur pour moi quand même, cette chanson-là. Puis, j'avais entendu, la première fois que je l'ai entendue, c'était la version de Ginette Renault qu'elle avait fait pendant le festival de jazz à Montréal avec Michel Legrand. Et je crois que c'est l'orchestre symphonique ou un big band qui est en arrière. Là, c'était ouf! C'est quelque chose à voir, cette chanson-là, à voir et surtout à entendre. Puis je pense que je l'ai fait même plus vite. Comme là, je l'écoutais, puis c'est là, ah, je l'ai fait un petit peu plus vite. Ouais, je pense que je l'ai fait plus vite que ça, même. Il a du punch.
Ouais, elle a du punch, cette chanson. Alors, on va passer quelques années, l'Université Montréal, hop, 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 ça y est, tu prends la décision, t'arrives à Toronto. On est au début des années 2000, qu'est-ce qui te fait prendre cette décision? Parce que t'étais à Drummondville, après tu continues tes études à Montréal, toi tu viens du Québec, donc t'étais dans ta zone en fait. T'aurais pu très bien continuer, comme tu disais, les vedettes, elles se baladent à Montréal, t'étais déjà au cœur de la ville. Qu'est-ce qui a motivé ton choix pour partir dans une province où le français, ça devient minoritaire, parce que toi, tout est tes cours, la musique même que tu chantes, c'est du français là jusqu'à présent. Qu'est-ce qui te motive à ce moment-là pour te dire « je vais à Toronto »
Ben, en fait, j'écoutais beaucoup de musique anglophone, ou pour ne pas dire presque que de la musique anglophone. Mais quand je suis allée au cégep, là, cégep en spectacle, tout ça, tout est en français. Les concours de chant, les concours de musique, tout doit être en français. Donc là, ça m'a comme forcée à écouter, découvrir des chansons.
Un peu changer de répertoire.
Ça m'a obligée vraiment à de creuser, puis d'écouter, puis voir qu'est-ce que j'aimais en français. Mais ne reste que au niveau du style musical, ça a toujours été comme la soul, le blues, le R&B, qui est beaucoup plus anglophone, américain. C'est ça, en fait. Moi, je voulais faire un album en anglais. Puis j'avais fait un album, avec du recul, là, c'était vraiment pas bon. Mais
moi, j'ai noté un peu en faisant mes recherches, 2001, un premier EP en anglais qui s'appelle « This Part of Me ».
Oui, mais j'ai fait quelque chose d'autre avant.
Ah!
Ah oui, mais ça, c'est pas nulle part. Là. Moi, j'ai amené des CD dans mon garde-robe de l'autre projet d'avant. Mais c'était des covers que j'avais faites. C'était vraiment pas bon du tout. Mais comme quand on envoyait des gens, et puis ils disaient « Ah, mais c'est en anglais. » Si c'est en anglais, on l'envoyait à notre bureau-chef à Toronto. Donc, puis on a fait « Ah, même si j'écrivais avec... Je rencontre quelqu'un, j'écris des chansons en anglais à Montréal, puis tu veux inviter des gens de l'industrie. » Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient leur studio à la maison. Comme, le rêve des artistes était de se faire signer par un major record label. C'était de se faire signer par une grande compagnie disque puis tout ça. Puis là, on se disait, ah ben on pourra pas, ils viendront pas à Montréal pour venir me voir. Là, comme, c'est plus moi qui devrais être à Toronto. Puis à ce moment-là, quand on pensait à ça, ma sœur avait déjà déménagé à Toronto et ma mère aussi. Ce qui a facilité les choses, qui a fait que je m'en allais pas dans une ville tout seul comme ça avec mon copain, puis lui il dit ah, moi ça m'arrange pas de lui, il était musicien à ce moment-là aussi, on s'est rencontrés à l'université, puis il dit ah, moi ça me dérange pas d'arrêter mon emploi ici, je vais me trouver d'autres choses, on peut déménager à Toronto, puis on a fait comme ok, on s'en va à Toronto, là ça a fait que oui, this part of me, parce que presque ça a pas pris de temps là, quand je suis arrivée à Toronto en 99, puis 98. En tout cas, c'est pas grave. 99, je pense, je suis arrivée à Toronto. Puis finalement, on a rencontré Brent pas si longtemps, mais ouais, j'ai eu comme un petit hiccup parce que j'ai tombé enceinte. Là, ça a comme mis une petite pause parce que moi, je venais comme pour vraiment musique, musicien, puis tout ça. C'était vraiment un move pour la carrière, oui. Puis là, ça fait OK, bon. Mais dès que là, j'ai eu mon garçon, puis tout ça. Mais dès que j'ai eu 3 mois après, mais j'étais en studio, j'étais en train d'écrire des chansons, j'étais en train d'écrire mes chansons avec Brent Bodrug, puis lui a dit oui, on va faire un EP, tu sais, commence à te faire connaître, 4 chansons, papapla. C'était comme une des personnes vraiment importantes quand je suis déménagée à Toronto, qu'on a rencontré au niveau anglophone. Puis c'est ça, c'est comme lui un petit peu qui a démarré ce EP-là, This Part of Me. Là, j'ai comme plein de branches d'histoire qui peut partir de ça, fait que je sais pas trop après, mais...
Moi, ce qui m'intéresse après, c'est que tu viens à Toronto, tu fais cette EP en anglais, et puis au final, il y a la formation des chiclettes. Il y a la formation
des chiclettes. Ah oui, c'est ça.
Et oui, comment il y a ce switch, et aussi comment tu rencontres les filles? Parce que les chiclettes, c'est Julie Kim, c'est Nathalie Nadon, et c'est Geneviève Cholet. Toutes les trois, vous formez cette super bande de filles un peu yéyé, un peu à l'ancienne, un peu rigolote, tout ça. Comment ça vient? Comment elle se fait cette rencontre? Comment tu passes de ton EP en anglais aux chiclettes?
Ouais, ben, OK, oui, merci. Tu m'as remis sur la... Mais c'est sûr que comme chanter en anglais, ça coûte cher à ce moment-là de louer les musiciens et tout ça. Puis moi, j'ai un bébé, là, j'ai un enfant. On déménage à Toronto, qui est une ville qui est assez dispendieuse à vivre. On a comme tout ça. Puis j'avoue que j'ai pris presque une pause. Comme j'ai fait des spectacles avec ça, mais là, il aurait fallu que je continue continue, puis que je sorte, que je rencontre des gens, mais je suis comme pris un petit peu entre les deux. José, mon conjoint, José Bertrand, qui, lui, s'était impliqué au niveau de la Francofête de Toronto, puis qui était sur le CA, puis là, il organisait le festival, puis tout ça. Donc là, ça m'a mis un petit peu avec les artistes, puis, mais j'ai presque arrêté de chanter comme vraiment, je suis là, OK, ben là, je vais avoir un deuxième enfant, puis qu'est-ce que... c'est peut-être ça, c'est peut-être un emploi, puis rien d'artistique, puis que je vais m'occuper de mes enfants, là, j'ai deux enfants, puis tout ça. Puis une nuit, je pleure, me réveille en plein milieu de la nuit, c'est presque un film. je pleurais, puis José descend, puis il me voit pleurer, mais comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis je peux pas faire de musique! Puis là, il était là, ben, pas personne qui te dit d'arrêter, mais comme, oui, comme, continue. Puis je savais pas les étapes, comme, j'étais un petit peu perdue. Mais finalement, Nathalie Nadon organisait des soirées francophones, comme, je pense que c'était le dernier ou le premier jeudi du mois, dimanche du mois, au Statler's à Toronto, puis c'était francophone. C'est très drôle parce que mon fils, il avait été voir We Will Rock You, la comédie musicale, puis le gars qui faisait le rôle principal, c'était Yvan Pedneau. C'était rendu que Yvan, il allait toujours le rencontrer à l'arrière de la scène, à l'arrière du théâtre, à la fin de chaque représentation, puis c'était rendu que ma soeur allait emmener mon garçon 5 fois, je pense, voir We Will Rock You. C'était rendu qu'à la fin, Yvan, il envoyait la main, il reconnaissait mon fils dans la salle, puis envoyait la main, puis c'était très cute. Puis là, on voit sur Internet que Nathalie a dit, ah, il va avoir mon prochain dimanche franco, avec invités spéciaux, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, et Yvan Pedneau. Puis là, Josée dit, je la connais, Nathalie, on l'a déjà eu pour le lancement de la programmation à la Francofête de Toronto. Il dit, va chanter au open mic. Il dit, va chanter Yvan Pedneau, il est là, on va emmener Kianou. Kianou va être impressionné que, tu sais, tu chantes comme avec... Là, je ben, oh non, ça fait longtemps que j'ai chanté, ça fait longtemps que... Là, il faut que je chante en français, comme j'ai pas de chanson en français, parce que là, en déménageant à Toronto, là, je m'étais remis dans le bain anglophone et tout ça. Mais finalement, José, il contacte Nathalie, il dit, écoute, ton open mic, c'est-tu vraiment comme quelqu'un se pointe, il peut aller chanter? Ou comme c'est assez planifié puis tout ça, parce que ma blonde est chanteuse, puis j'aimerais ça aller chanter une chanson. Ben qu'elle nous envoie ses partitions puis qu'elle vienne chanter. Mais je pense que j'ai chanté « L'amour existe encore ». Puis, mais c'est ça. Là, on a emmené mon fils puis tout ça, mais ça s'est adonné que le jour même ou la veille, Yvan n'a pas participé à l'événement. Ils ont ajouté une performance de We Will Rock You, puis il n'a pas participé. Mais Nathalie, elle m'a remarqué. Puis là, elle me dit, ben voyons, mais t'étais où, toi, là? Comment ça, je te connaissais pas, puis t'es à Toronto, puis tu chantes comme ça, comme, ben là, t'as-tu préparé une autre chanson? Je suis comme, non, c'est la seule que j'ai. Ben, d'abord, tu reviens le mois prochain, puis tu m'en fais deux. Puis là, là, j'ai fait OK. Puis, je suis revenue le mois d'après. J'ai fait 2 chansons. Puis là, Geneviève Cholette était dans la salle. Elle avait chanté aussi dans le open mic. Puis Nathalie, après ce soir-là, a dit... Non. Elle me dit, oh, j'organise un événement en juin. C'est une levée de fonds. En tout cas, je vais te contacter. Je dis OK. Elle me contacte. Ça, c'est comme en février, mars. Elle me contacte en mai, juin. Puis elle me dit, hey, j'organise un show pour un organisme à but non lucratif. Tu sais, ça serait pas payé, mais comme là, j'essaie de ramasser plein d'artistes qui vont chanter à ce show-là. Ta. Oui, je fais partie du spectacle, je chante une chanson, Geneviève Cholette aussi, mais après le spectacle, je vois que Nathalie me regarde. Puis comme, elle dit, toi là, je vais taper demain, OK? Elle dit, j'ai quelque chose à te proposer, OK? M'a dit, je pars là tout l'été à Terre-Neuve, mais elle dit, je pars comme dans 2 jours, mais je vais t'appeler demain. J'ai dit, OK. Mais elle m'a jamais appelé. Fait que moi, je pensais que ça, c'était fini, qu'il n'y avait pas rien, puis tout ça. Puis ça, c'était en juin. Mais finalement, elle m'appelle au mois d'août. Ouais, excuse, hein, j'ai dû quitter, tu sais, pour Terre-Neuve, pour tout l'été, puis là, je viens de revenir. Puis tu sais, qu'est-ce que je t'ai dit que j'allais te rappeler, là? Bon, là, je t'appelle pour ça. OK. Là, elle me dit, Geneviève Cholette et moi, on s'est parlé qu'on voulait faire un projet ensemble, mais on a besoin d'une troisième personne. Puis elle dit, quand je t'ai vu chanter, là, je me suis dit, c'est elle qu'il nous faut. Fait que je suis comme, OK, c'est quoi ça? Puis là, elle dit, il y a un événement qui s'appelle Contact Ontario, ils font un événement en janvier. La date date pour soumettre, c'est dans le mois de novembre. Elle dit, il faudrait monter quelque chose comme un petit 20 minutes, une vitrine. Puis elle dit, ça, est-ce que ça te tenterait de faire partie d'un trio vocal? T'sais, mais vraiment, dans le temps d'une éclair, là, c'est vraiment vite, vite. Sur le coup, comme moi, j'ai toujours, quand je m'imaginais une carrière en chant, je me voyais solo. Comme là. T'sais, sur le coup, j'ai fait comme, oh, ça ne me tente pas de faire partie d'un trio vocal. Comme vraiment, une fraction de seconde. Puis tout de suite, je me suis dit, Kim, ça fait 2 ans que tu ne chantes pas. Comme, c'est soit que tu ne chantes pas ou que tu fasses des projets. Comme. Puis là, j'ai fait, OK, ouais. Ben, puis là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que j'ai à perdre de voir c'est quoi ça? Comme, ça va sûrement être le fun, comme c'est, puis trois fait la force aussi que moi, que oui, j'étais solo avant ou peu importe, mais on pédale, on est en arrière, t'es tout seul, c'est toi qui traîne le tout, mais quand t'es à trois, il y a trois fois l'énergie, trois fois la force, puis finalement, c'est comme ça que vraiment est né les Chiclettes, parce qu'on s'est mis les trois ensemble, on a dit, OK, toi, tu connais quelle chanson, puis c'est obligé d'être en français. Peut-être elle a oui. J'ai dit, oh. Là, je dis, je connais juste l'amour existe encore. Comme, ou presque. Ou du Starmania. Ou du Michel Legrand. Comme je disais. Mais, puis, on a fait, puis là, je disais que je connaissais du Morane aussi. Que j'étais. J'aimais beaucoup Morane, que j'ai découvert, entre autres, au cégep. Puis, on a fait, je pense, c'était une chanson de Morane qu'on a fait sur la bande d'audition. On s'est filmé. Puis, avec du recul, vraiment, là, notre bande d'audition à Contact Ontario ne passerait jamais aujourd'hui, là.
Aujourd'hui, ça a marché, ça a marché, puisqu'en 2010, vous êtes justement le prix coup de foudre à Contact Ontario.
Oui, on avait gagné, en fait, tous les prix de ce temps-là. Dans les années suivantes, ils ont ajouté des prix, mais à ce moment-là, on avait gagné le prix Rosec, on avait pris oui, on avait gagné Rosec, on avait gagné Radar, puis on avait gagné le prix coup de foudre. Donc ça nous a fait vraiment... Puis moi je savais même pas c'est quoi Contact Ontario, comme je comprends pas du tout, là, c'est quoi là, qui se passait? C'est quoi cet événement-là? J'étais vraiment inconsciente. J'avais déménagé à Toronto, mais je savais même pas qu'il y avait vraiment une communauté francophone, vraiment. Je le savais parce que là, par ce temps-là, mon fils allait à l'école, puis j'avais découvert qu'il y avait des écoles en français, puis qu'il y avait, oui, la francophète, puis tout ça. Donc, je l'ai découvert, mais originalement, quand je suis déménagée à Toronto, c'était pour vivre en anglais. C'était pas pour vivre en français ici du tout. Puis les gens aussi, ça a fait comme « Ah, oh, t'es francophone, ben on a besoin d'une chanteuse en français comme dans tel événement. » Puis là, je fais « Ah, c'est bizarre, je déménage ici pour chanter en anglais, mais finalement, je me fais toujours demander de chanter en français. »
Oui, parce qu'au final, vraiment... en français, t'es tellement en situation de minorité que, waouh, tu sors du lot parce que, OK, tu peux parler anglais, tu peux chanter anglais, mais il y a plein de gens qui peuvent le faire ici.
Exactement.
Alors que exactement. Ta différence faisait de toi quelque chose de hyper précieux parce que du coup, tu avais un don, une qualité que quelqu'un d'autre ne pouvait pas. Puis le français, on ne va pas se mentir, si tu ne le parles pas, tu ne pourras jamais vraiment le parler exactement. Tu ne pourras pas faire prétendre. Tu vois, tu peux apprendre des fois des langues un petit peu et chanter, faire un peu du yaourt, ça passe. Le français, par exemple, la chanson de Michel Legrand tout à l'heure, si tu ne maîtrises pas le français, oublie, c'est pas possible. Tu peux pas l'apprendre juste comme ça. Il y a tellement de diction. La langue française, elle est tellement compliquée que cette différence faisait de toi quelque chose de super incroyable par rapport au panel d'artistes qu'il y avait ici, en fait.
Oui.
Mais
oui,
du coup, donc, l'aventure des Chiclettes, ça dure quand même un bon moment. On va passer parce qu'on arrive presque déjà à la fin de cette interview. Mais ton rêve de carrière solo est resté quand même dans un petit coin de ta tête parce qu'en 2018, tu as sorti ton album solo, pour le coup, Portrait, il s'appelle. Pourquoi avoir eu envie, justement, de revenir un petit peu à une carrière solo après avoir tout explosé avec les Chiclettes?
Ben parce que c'était ça, l'idée de base, premièrement, mais c'était aussi pour, en fait, je vais reculer pour revenir, là, mais quand j'étais à l'université, j'ai fait partie d'un grand spectacle qui s'appelait Artefac, qui était un petit peu un genre de cégep en spectacle, mais pour le niveau universitaire. Puis j'ai chanté au Spectrum, qui était une grande salle de spectacle. Ah, puis ça aussi, j'ai eu vraiment une genre de reconnaissance, beaucoup d'avoir joué là. Mais le groupe qui j'ai rencontré lors de cet événement-là, qui était aussi dans une autre université, c'était Corneille. Corneille Gage et Gardy, qui faisait partie du groupe One. À ce moment-là, que j'ai chanté au Théâtre Saint-Denis avec eux pour le Sounds of Blackness Awards. Puis j'avais toujours gardé contact avec eux, mais qu'en déménageant à Toronto, j'avais perdu contact avec eux. Mais ce qui est... Puis là, je vais revenir après, plus tard à ça, mais eux... Je les avais rencontrés quelques fois dans les rues à Montréal après, puis eux voulaient vraiment faire ça, de la soul, du R&B en français, mais comme ça n'a jamais vraiment débloqué, tu sais. Ça, c'est un style musical qui ne s'entend pas beaucoup en français. Puis, à la Francofête, il y a eu l'artiste Ben L'Oncle Soul, que j'adore, mais moi, ma mâchoire a fait comme... Okay, là, lui, il fait vraiment de la soul en français, puis c'était vraiment life-changing. ça m'a vraiment... OK, oui, comme ça se peut! Puis c'était vraiment son spectacle. Je suis devenue une grande, grande, grande fan de lui. Puis c'était vraiment un élément qui m'a vraiment motivée. Et je me suis dit, écoute, faut que je le fasse. Je dois le faire. Puis c'est le fait que si j'allais avoir 40 ans, puis je me voyais, Kim, c'est impossible, tu n'as même pas fait ton album là, que tu as voulu faire toute ta vie. C'est le temps. À un moment donné, je vais pas attendre d'avoir 70, 80. Là, il va être trop tard. Comme faut vraiment le sortir là. Puis là, j'ai rencontré... Jenny René, qu'on a fait des retraits d'écriture. Puis moi, c'est très important. Je suis pas une très grande parolière, mais c'est vraiment le côté musical pour moi, avec tout mon background, mon...
univers à toi, quoi.
Mon univers musical. Puis c'est ça. Puis c'était certain que j'allais sortir mon album avec mes chansons solo. Puis c'est drôle parce que les gens, ils font comme, ah, oh, là, tu fais plus partie de Chiclettes. Puis je dis, non, les Chiclettes. Puis ça l'a tombé comme avec les Chiclettes. Puis les deux, comme là, en ce moment, je suis encore avec les Chiclettes. On est plein de spectacles. Mais comme là, je fais comme, OK, là, les Chiclettes, ça va peut-être redescendre l'an prochain. Donc là, comme, est-ce qu'on se réécrit ou quelque chose d'autre chose? Puis est-ce qu'on se remet à l'écriture et tout ça? Mais oui, c'était... Puis la francophonie, en fait, m'a demandé de faire le spectacle d'ouverture, de faire la première partie de Corneille lors de son passage à Toronto. Que ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce qu'on s'est retrouvés. Puis à chaque entrevue que je faisais, les gens disaient que, oh, qu'est-ce que t'as le plus hâte? Je dis, c'est de revoir Corneille! Parce qu'on s'était jamais revus depuis les années qu'on a chanté ensemble à Montréal. Puis on a eu la chance de reconnecter lors de cette soirée-là. C'était vraiment une soirée magique. Ça s'est super bien passé. C'était une salle comble. Les gens ont été... super réceptif à ma musique, au spectacle. Ce fut vraiment une soirée mémorable, cette soirée-là. C'était fantastique. Ouais, c'est ça a comme fait un full circle, là, comme le fait, puis là, comme Corneille puis moi, on s'est rappelé là, des souvenirs, là, on s'est remémoré des histoires d'avant, puis tout ça, c'est le fun.
Alors, vu que cette interview, elle touche déjà à sa fin maintenant, Julie Kim, j'aimerais savoir, c'est quoi tes projets pour les mois à venir, les années à venir? Je sais que là, avec les Chiclettes, vous avez eu pas mal de spectacles, mais est-ce que tu as d'autres choses, que ce soit avec les Chiclettes, que ce soit toute seule, explique-nous un petit peu comment et où on va te retrouver prochainement.
Ben, en ce moment, vous pouvez me voir à la télévision parce que en mois d'avril dernier, j'ai tourné un commercial de Staples. Puis je ne suis pas en train de faire une pub, là, c'est juste pas pour eux nécessairement, là, mais je fais une pub à la télé pour eux. Mais c'est avec. J'ai fait la version anglaise et la version française, en français. En anglais, j'étais avec Howie Mandel. Puis en français, j'étais avec PY. Qui arrive du Québec. Donc ça, ça tourne en ce moment. Là. Je reçois des messages presque tous les jours. Hey, je t'ai vu à ta ligne. Oui, je m'en vais à l'automne. Je reviens de la France avec les Chiclettes. On retourne en tournée dans l'est du Canada. Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve en novembre. Puis là, on me demande c'est quoi prochainement qui s'en vient pour moi au niveau solo. Donc, ça mijote. Là, ça mijote. J'ai recommencé à me faire des notes. Dès que j'ai des inspirations, j'enregistre des choses, j'enregistre des idées. Je pense qu'un EP De Julie Kim s'en viendrait prochainement, potentiellement pour 2024. Puis j'auditionne pour la télé, j'auditionne pour les commerciaux, les films, le cinéma, des séries et tout ça. Donc, en espérant que ça se développe encore plus de ce côté-là. J'adore faire les deux. Puis de toute façon, je pense que si je faisais juste une chose, que même si c'est quelque chose qui me passionne, je pense que je finirais par m'ennuyer à quelque part. Parce que j'aime trop de choses. Ouais, c'est pas mal ça. Musique, l'acting, tout ça.
Et avant de se quitter, Julie Kim, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs de Choc FM 105.1, c'est quoi tes réseaux sociaux? Comment ils peuvent rester en contact avec toi justement pour suivre un petit peu toute ton actualité?
Oui, ben sur Facebook, je suis là, je suis moins là, mais je vois quand même les messages passer. C'est Julie Kim. Mais je suis très présente sur Instagram. Et c'est Julie Kim, artiste, mais c'est juste le R. T-I-S-T. Puis il y a bien sûr les chiclettes sur Instagram qu'on est là aussi, donc je vois les messages et tout ça. Puis, ouais, c'est ça. Ça, c'est mes médias sociaux. Puis qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Bien, la semaine prochaine, c'est le Gala Triard et les chiclettes sont les 4 nominations. Donc, je m'en vais à Ottawa la semaine prochaine pour le Gala des Triards.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Julie Kim, d'avoir pris un peu de temps pour parler avec nous aujourd'hui. Bon courage pour le gala. On espère que vous allez nous ramener des jolis prix. En tout cas, ça sera une sympa expérience d'être à Ottawa. En tout cas, merci vraiment. C'était un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec toi. C'était Nathalie Salmeron dans Plus proche de vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. À très bientôt, Julie Kim.
Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde.
J'ai pas le génie de Vinci. J'ai pas les pieds sur terre, la patience de ma